C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Bonne Toile, le podcast qui parle de cinéma par genre et par salve de 3. Et en ce moment, on fait pas forcément un genre, on fait la trilogie Cornetto. Voilà, et donc on est sur le deuxième film de la trilogie Hot Fuzz, sorti, si je dis pas de conneries, en 2009, 8, 8, 7
7.
7, hein. Voilà, ouais, je prépare vachement bien mes émissions.
6, 5, 4, 3.
Voilà, 10, exactement. Et je suis toujours accompagné de Liam de Bruel.
Bah oui, bon, bonsoir, toujours un plaisir.
Et pareillement, de Maxime Solito,
les amis,
et de Laura, la chaîne Laura Fechor.
Salut.
Et donc, on va parler de Hot Fuzz. Alors, Maxime, première question, Hot Fuzz, tu l'as découvert comment ce film ?
DVD, directement DVD, vu qu'il n'est pas sorti en salle chez moi.
Ah oui, c'est dommage.
Ouais, pas de bol. Et du coup,
Est-ce qu'à l'époque, tu l'avais été dégoûté de ne pas pouvoir le voir en CD déjà ou pas?
J'ai un vague souvenir d'avoir avalé un de mes testicules. Mes souvenirs sont pas flous à cette époque.
D'accord.
Je peux pas. Mais
tu sentais le bon truc, quoi?
Oui, oui. Non, mais alors, j'avais été impressionné par Shaun of the Dead. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais vu. Je l'avais revu déjà 3-4 fois à ce moment-là. J'attendais déjà Hot Fuzz, ouais, c'était déjà une vraie attente. Et le fait que le film soit sorti dans très peu de salles en France, ça a été bien les boules. Ouais.
Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais.
Et donc, tu l'as découvert. Du coup, le DVD, je me suis rattrapé après.
Et c'est bon, tu l'as saigné comme il fallait, quoi.
Il me semble que je l'ai tellement rayé qu'après, j'ai dû racheter le Blu-ray pour continuer à le voir.
Ah, ça, c'est beau.
Je l'ai encore plus vu que Shaun of the Dead.
Alors, Liam, j'aimerais bien que tu nous pitches le film, s'il te plaît.
Oui, alors c'est l'histoire de Nicholas Angel, c'est un policier qui est tellement parfait que ses collègues en ont marre et l'envoient dans un petit village, tout ce qu'il y a de plus parfait également, il n'y a rien qui se passe, clairement il s'ennuie, il n'y a rien vraiment, son collègue Danny est hyper fasciné par lui parce qu'il est vraiment le cliché du policier tellement héroïque qu'il serait incarné qui pourrait être incarné par plein d'acteurs américains dans des blockbusters. Mais un jour, il commence à y avoir des accidents à répétition assez sanglants et Nicolas est en train de se demander s'il n'y a pas des meurtres, sachant que ses autres collègues lui rient au nez parce que pourquoi il y aurait des meurtres dans cette charmante petite ville. Et la raison, eh bien, vous le saurez en regardant le film.
Oh là là, mais ce pitch du feu de Dieu. Non mais franchement, je pense que j'ai rarement vu un film être aussi bien pitché par quelqu'un, quoi.
La meilleure présentation du film, c'était quand même Edgar Wright qui l'avait posté sur Twitter. C'était une bande-annonce qui enchaînait juste les noms des acteurs, même les simples caméos en 30 secondes, vraiment. Donc ça, je ne saurais jamais atteindre ce niveau, quand même.
Oh bah écoute, c'était quand même assez impressionnant, là, ce que tu viens de nous sortir, donc bravo. Donc oui, voilà, très bien pitché, et à partir du moment, on va spoiler le film de manière libre, donc on va parler de tout, donc si vous ne l'avez pas vu, découvrez-le, évidemment, c'est un grand film, je trouve, encore une fois. Et là, pour le coup, je vous invite à le découvrir avant d'écouter l'émission, parce que c'est un film qui est basé sur un principe d'enquête policière, donc le rapport twist-révélation a quand même son importance, donc beaucoup plus que dans Shaun of the Dead, dont on a parlé précédemment. Laura, toi, tu l'as découvert comment, ce film ?
J'ai pas souvenir de l'avoir vu au cinéma. Donc, je pense que je l'ai vu aussi directement à sa sortie en DVD. Parce que j'avais beaucoup aimé, du coup, Shaun of the Dead. Et j'étais impatiente de voir quel autre genre allait être attaqué dans Hot Fuzz. Et très bonne surprise. C'est un film que je vois aussi assez souvent.
Ah bah, écoute, ouais, je peux te comprendre. Toi, Liam ?
Alors, la manière dont je l'ai découvert, vous pouvez, franchement, vous pouvez vous moquer de moi.
Dans l'avion.
Non. Alors, c'est simple, ça passait sur BTV, c'est l'équivalent belge de Canal+. Et donc 2007, j'avais 11 ans. Et disons que dans ma famille, on est en mode attention, film violent, etc. Le film passe comme ça, je zappe, et je tombe sur les premiers meurtres. Donc, directement, moi, impressionnable, ouais, bon, je vais changer de chaîne, ça a l'air pas pour moi. Puis je repasse plus tard et c'est le moment où le bout de la cathédrale cédera sur le journaliste.
Ah oui.
Donc, double impression. Le lendemain, j'en parle à quelqu'un à l'école qui me dit « Ouais, mais ce film, il est trop drôle, etc. » Et moi qui me dis Mais merde, j'ai vu que deux extraits. Je me disais, ça doit être hyper violent. Et finalement, je l'ai découvert plus tard. Et c'est devenu tout simplement l'une de mes comédies préférées.
Ah bah écoute, moi ça a été découvert au cinéma. Je suis le seul de la bande à avoir vu au cinéma.
Ouais.
Oh. Le vrai ciné. Je suis le seul cinéphile en fait ici. Non, je suis le
Mmh.
seul parisien de naissance, quoi. sur tout ça. Parce que voilà, il passait au Gaumont-Parnasse, je me rappelle très bien, une séance un samedi soir. Et j'étais, mais plié en quatre. Franchement, ça m'avait flingué. Je m'étais marié comme pas permis. Et je ne l'ai pas revu. Je pense que je ne l'ai pas revu. J'ai dû le revoir une fois depuis, juste pour ce podcast. Hein, je ne suis pas sûr de l'avoir. Ça fait partie de ces films dont j'avais tellement un bon souvenir que je n'avais pas envie Enfin, vous savez, des fois, tu as peur de te confronter un peu au souvenir que tu en as. Et grand mal m'en a fait parce que le film se revoit et se re-revoit et se re-revoit parce que je l'ai revu plusieurs fois depuis, là, depuis en très peu de temps, parce qu'il est, encore une fois, d'une richesse assez énorme et ça vaut vraiment le coup de le voir de le revoir parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Justement, en parlant de qualité, Maxime, c'est quoi pour toi la plus grande qualité de Hot Fuzz?
Oh là
Ah
là.
ouais, vas-y, allez, on peut se poser, vas-y, tu prends les commandes.
Le traitement unique et original de l'action.
Ah,
Putain.
vas-y,
Oui.
développe.
Ah, mais il faut que je développe en plus.
Ah ouais, ah ouais, faut que tu
Ok.
développes.
Quand on regarde Hot Fuzz, on sait qu'on ne regarde pas L'Arme fatale 2. On
Alors, en
sait qu'on
fait,
regarde.
pourquoi c'est pas l'arme fatale 2, justement?
Déjà parce que c'est deux films différents. Il y en a un qui a été réalisé par
Non,
Richard Donner, l'autre par Edgar Wright.
il y en a qui s'appelle l'arme fatale 2, l'autre
Il y en a un qui
Hot
s'appelle L'Arme fatale 2, l'autre qui s'appelle Hot Fuzz. Je ne sais pas si tu as remarqué.
Fuzz.
Non,
D'ailleurs, je
le.
glisse ça, mais l'arme fatale 2, commentaire audio à écouter de toute urgence, c'est Richard Donner
Oui.
qui sait même pas quel film il regarde et qu'on n'a rien à battre. Il sort genre trois phrases en 20 minutes, ça va mourir de rire de
Et regarde
malaise.
le film, quoi. Il est
Ouais,
merveilleux.
j'en ai rien à foutre, quoi.
On sait que quand on regarde Hot Fuzz, on ne regarde pas une des références d'Hot Fuzz. Je ne sais pas si je suis clair.
Ouais, je vois ce que tu
On
veux dire.
sait, tout comme quand on regarde Shaun of the Dead, on sait qu'on ne regarde pas Zombie ou La Nuit des morts vivants, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que la façon de traiter l'action dans le film, ou genre policier, si tu veux, elle est propre uniquement à Hot Fuzz. C'est quelque chose que j'ai jamais retrouvé ailleurs dans un seul autre film qui mélange comédie policier, comédie policière ou comédie d'action en général. Je n'ai jamais retrouvé précisément ce ton-là où que ce soit ailleurs. Donc c'est ce traitement unique et original-là que je trouve vraiment génial dans le film.
Ok, t'as pas réussi à expliquer c'était quoi ce traitement, mais on va sûrement y revenir en creusant un peu.
Et merde.
C'est pas grave, t'inquiète pas, je comprends, mais moi j'arrive pas. Enfin, il y a une forme d'évidence qui est tellement. Tu sais, il y a des fois c'est trop compliqué de réussir à. C'est sensoriel en fait, je trouve. Mais Laura, le plus gros défaut du film. Eh ouais, parce qu'ici on parle aussi des choses qui fâchent.
Le plus gros défaut, ah
Ah ouais, là
mince.
ça va être dur, hein. Là ça va être dur.
Ça, je suis pas bonne à trouver des défauts.
Ah ouais, mais non, mais surtout
Franchement.
sur celui-là, il n'est pas évident du tout, hein.
Ben ouais.
Ouais.
Ah, en plus, quand je passe la première, je peux même pas dire ouais, je rejoins l'avis d'un
Alors,
tel. Ben,
bah vas-y,
franchement, je saurais pas, comme ça au premier abord, je saurais pas lui trouver un défaut. Oh, j'ai
Ok.
dit pareil pour Shaun of the Dead, je crois.
Bah écoute, ça veut dire que quelqu'un de positif, c'est bien. Très bien. Liam, je montrerai tous mes films, Laura, pas le problème. Liam, toi, est-ce que tu auras un défaut à souligner dans ce film?
Le défaut, c'est qu'on ne lui en trouve pas. Voilà.
Ah. Oh, allez, c'est une belle réponse
Oh.
de Belge suisse.
Voilà. Donc, clairement, j'essayais de me dire, ok, un défaut, un défaut, un défaut. Et au final, voilà. Je ne peux pas lui trouver de défaut. Pour moi, c'est un défaut. Merci, c'est un excellent débat. Voilà.
Non, mais c'est vrai que ouais, revenons-en sur le fait qu'on n'arrive pas à cerner un défaut. Est-ce que ça voudrait dire que ce film est parfait?
Non.
Ah.
Non, il n'est pas parfait. Après, dans son style, il est extrêmement bon. Après, il a un style qui est tellement unique qu'au final, est-ce qu'il n'est pas le seul représentant de son genre
Oui,
particulier? C'est ça
oui.
aussi.
C'est
Ouais,
ça le
c'est que
truc. C'est qu'on ne peut pas le comparer à autre chose en disant bah ça, il est réussi
Et
mieux ou
ouais.
moins bien. Non, mais c'est bah, c'est intéressant justement de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que c'est potentiellement parce qu'il est le seul à faire ce qu'il fait qu'on ne peut pas le juger sur une base.
Ouais, on n'a pas de point de
On n'a
comparaison
pas de point de
finalement avec un
comparaison,
truc
quoi.
qui y ressemblerait vraiment. C'est compliqué.
Ouais.
C'est vrai que c'est pas un film au premier degré directement dans son approche, mais on n'est pas non plus dans du Spartatouille, le Scary Movie du policier, on est vraiment dans quelque chose qui arrive à maintenir ce fil et qui, bah, pour moi, en fait, Edgar Wright est un funambule. Il parvient à rester sur un fil qui parvient à être divertissant, à être drôle et à être référencé, et qui, en même temps, charrie des thématiques, a quand même un fond derrière qui est passionnant et qui arrive quand même à avoir une dramaturgie qui, sans être mise en avant spécialement, parvient à être assez solide pour rendre certains moments plus efficaces.
Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Maxime, est-ce que toi, tu as un défaut à nous souligner?
Oui,
Ah,
j'ai trouvé un défaut à ce film, je suis
moi, j'en ai
désolé.
un aussi. J'en ai un
J'en ai un.
aussi, donc vas-y.
Écoutez, dans ce film, il y a Olivia Colman
Ouais.
et on la voit à peine. Et si on avait su à l'époque que c'était une des meilleures actrices de sa génération, je pense qu'on aurait voulu la voir un peu plus dans le film, voire juste deux, trois vannes, deux, trois punchlines en plus d'elle.
C'est vrai que c'est improbable. Elle joue donc la fille du commissariat, qui est une espèce de meuf qui fait que des blagues graveleuses. Enfin, pas des blagues, juste des trucs de réflexion qui peuvent être prises pour des réflexions graveleuses. Et donc elle passe pour une surbeauf, quoi.
D'ailleurs, j'ai une théorie,
Ah,
c'est
vas-y.
que Doris, son personnage, face à la découverte des événements dans cette ville, va décider d'emménager dans une autre ville appelée
Broadchurch.
Broadchurch,
Ah oui.
où elle va
Si,
penser
si, si,
vivre une
si, si.
nouvelle vie normale, mais malheureusement se retrouver face à un autre drame qui, là, est beaucoup plus fort. Enfin,
Ouais,
est beaucoup plus fort, on se
j'ai une
comprend.
autre théorie. J'ai une
Ah
autre
ben,
théorie qui.
alors, je vais vous les poser après les théories, mais allez-y,
C'est
vas-y.
que, vu les événements, le trauma qu'elle a vécu, ensuite, elle a décidé de devenir reine d'Angleterre.
C'est ça, exactement. Et
Puis voilà.
voilà, de remonter dans le temps et de devenir.
C'est ça.
Et oui.
Ouais, toi,
Et de
t'as
voir qui
fait.
sera sa favorite entre.
Voilà, aussi.
Moi, j'ai un défaut. J'ai un défaut. Et pas les moindres. Je trouve quand même que. Mais est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que en fait, c'est totalement fait exprès de la part de ce petit cette petite fripouille d'Edgar Wright? Je trouve qu'il y a un moment où c'est très compliqué de suivre cette enquête policière à la con.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où là, les histoires de trucs immobiliers, de machins qui en fait bitonio, poète-poète, mais c'est fait exprès parce qu'au final, c'est pas ça la solution. Enfin, en fait, le dossier que monte Angel est totalement à côté de la plaque parce que la réponse est totalement autre chose. Mais il y a un moment où j'avoue que je suis perdu, quoi. Quand je regarde le truc entre qui est le putain de prof de théâtre qui est le cousin de Bitonio de machin et qui couche avec la meuf qui bosse à la mairie, en fait, je comprends. Au final, je pourrais pas te résumer l'histoire du bordel immobilier dans cette ville qui est potentiellement à un moment la cause des meurtres.
Et d'ailleurs, c'est drôle parce que justement, cet aspect en perlificoté de l'histoire, ça me rappelle un autre grand film policier, Qui veut la peau de Roger Rabbit, qui a également un aspect assez sérieux à un moment dans son enquête qui va tourner ailleurs, et qui en plus, je ne sais pas si vous savez, mais l'histoire policière derrière Roger Rabbit, l'appropriation de terrain, etc., eh ben, c'était une vraie affaire, justement, qui s'est retrouvée chez Zemeckis. Donc voilà, est-ce que c'était aussi pour faire le lien avec Roger Rabbit? Peut-être.
Il y avait un lien entre Roger Rabbit et Chinatown aussi, c'était qu'il avait remplacé l'eau dans Chinatown par l'autoroute dans Roger Rabbit. Mais bon, Roger Rabbit est adapté d'un bouquin, donc c'était aussi dedans. Et je ne sais pas où je vais avec ça. Et
Mais écoute, malin
c'est tout, point. Non, en
intéressé
fait,
de
j'ai
parler de
rien,
ce
excusez-moi.
sujet. Mais bah voilà, donc moi c'est mon petit défaut. Après, le film en joue, donc c'est toujours compliqué, quoi, enfin, tu vois, de dire que c'est un défaut, alors que clairement il en est conscient d'un flic qui essaie d'élaborer une théorie totalement complexe pour un truc qui finalement est ultra bateau, en fait, il voulait pas de gens. Enfin, le mec jouait mal, et donc on le tue pour
Il veut te
ça.
perdre, justement. Le but, c'est aussi de te perdre, parce que justement, le fait que ce soit un flic qui est perfectionniste et qui va chercher le moindre défaut jusqu'au point d'élaborer un truc qui soit complètement dingue avec plein de liens les uns par-dessus les autres, c'est une manière de rentrer dans son cerveau à lui, dans sa façon de penser, et de montrer justement à quel point il a tort et à quel point les choses, des fois, elles sont juste plus simples que ça.
Oui, ouais, c'est vrai. Et c'est là où c'est tout le. Si, c'est en effet le thème du film, hein, d'apprendre à vivre plus simplement. Pardon, John. On a parlé de défauts, mais Laura, toi, tu ne m'as pas dit la plus grande qualité du film pour toi.
Pour moi, la plus grande qualité du film, c'est vraiment son bon mélange des genres de la comédie, du buddy movie, du film d'enquête, du film franchement sanglant par moments, des scènes d'action. Je pense qu'il y a encore, quoi, pour moi, j'y trouve encore plus de genres différents que dans Shaun of the Dead, par exemple. Et je trouve qu'il mêle ça avec beaucoup d'habileté parce que tout s'imbrique bien, tous les genres s'imbriquent bien les uns dans les autres. En fait, tu passes d'une scène d'enquête à une scène d'action hyper rapide, des scènes de fusillade et tout. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup de fluidité. Et
Ouais, bah, c'est sûr que là-dessus c'est magistral, hein,
je pense que ouais, pour moi, c'est parce que je vais pas encore répondre le duo Peg Frost. Donc je dirais que voilà, la force du film pour moi réside là.
Et vous avez quelque chose à répondre à ça? Vous êtes d'accord, pas d'accord?
Pas du tout d'accord,
Pas du
évidemment.
tout, évidemment. On s'en
Non, mais
doutait.
elle a raison, elle est bien sûr qu'elle a raison.
Ouais, et toi, Liam, ta plus grande qualité?
Ah, il faut que j'essaie de pas me répéter,
Ah, c'est dur,
mais.
on va arriver, on est déjà là, ouais, là ça va être compliqué, hein, parce qu'il refait quand même des films qui ont les mêmes qualités un peu. Hein.
Bah, je vais partir sur une autre réflexion qu'il fait. Je trouve que le personnage de Danny est intéressant par son rapport à la fiction directement, qui amène une autre thématique, qui parvient à donner une scène assez émouvante en rejouant Point Break quand même. Et je trouve que c'est cet aspect émotionnel qui est très distrait au final. Je pense que parmi les trois films de la trilogie Cornetto, c'est le film aux sentiments les plus cachés, mais qui parvient justement à trouver dans cette scène vraiment quelque chose de fort, qui fasse de la référence, mais qui nourrit le personnage, qui montre vraiment que c'est un personnage nourri à la fiction, nourri à la pop culture, à la manière d'un film de Steven Spielberg dont je ne vais pas nommer parce qu'on va par en parler pendant des heures tellement c'est un excellent film. Mais voilà, je trouve justement que ce rapport, ce genre de petites thématiques qui se rajoutent en plus de la qualité du scénario, de la qualité de la mise en scène, de la qualité d'un casting qui est tout simplement parfait, bah voilà, c'est le genre de truc qui me touche dans mon petit cœur de Belge.
Bah, en plus, ce que je trouve assez notable, c'est la construction de cette référence. C'est que c'est pas. Y a un vrai, y a une vraie, un vrai ludisme dans la manière de l'amener. C'est-à-dire que donc c'est la séquence de Point Break, elle est décrite par Danny une première fois, et tu vois veux dire, la passion qui l'anime. Elle est vécue en le regardant à la télé une deuxième fois, où le mec, tu vois qu'il l'incarne et il le joue avec sa télécommande. Et quand il arrive, quand il le fait en vrai, il y a ce moment où t'es, en fait, t'en. T'es conscient que le personnage il le fait parce qu'il a l'occasion et ça te. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de moment où tu es en totale connivence avec lui et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne vraiment bien, quoi. C'est que ça a été parfaitement amené et que c'est encore une fois un aboutissement à quelque chose de très bien construit, quoi.
Là où, par exemple, pour parler d'une autre comédie que j'adore, La Cité de la Peur, qui cite aussi la scène, mais qui là fait surtout la blague du clin d'œil, alors que c'est vrai qu'ici, bah, il y a une charge émotionnelle qui est quand même derrière, alors que j'adore ces deux films. Ne me faites pas affronter La Cité de la Peur ou Hot Fuzz, je préfère choisir n'importe quelle autre option, plutôt que de me décider lequel de ces films j'aime le plus.
Oui, mais ne va pas vomir si t'es content quand même. On
Oh.
Alors, restons propres. Je crois que tout le monde a dit des qualités, tout le monde a dit des défauts. Si je dis pas de bêtises, on a un peu galéré, mais écoutez, on en a trouvé. Donc, on va passer aux questions connes. Et la première, vu qu'on a commencé à en parler, en vrai, vous iriez vivre dans cette ville, vous?
À quel moment?
Là, au moment où c'est présenté dans le film, au départ, est-ce qu'elle vous tente, cette petite bourgade?
Encore moins.
Bah, pour le coup, disons que si c'est après les événements, étant donné qu'à mon avis, plus personne n'a envie de venir dans cette ville, et qu'en même temps, on est dans une nouvelle direction prise par Simon Pegg, mais j'essaierai d'y revenir là-dessus plus tard, ça pourrait être intéressant financièrement. Mais ça, c'est le méchant comme ça. Mais comme ça, bah, disons que je dirais non, parce que justement, c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment cette illusion de perfection, de vraiment petite ville typique qui a tout ce qu'il faut, où bah, tout le monde est heureux, où il n'y a pas le moindre souci. Allez, les rares problèmes du quotidien, c'est la statue et les tags. Franchement, voilà, moi, D'un
Mais
côté,
ils
c'est.
sortent d'où d'ailleurs ces gens? Ça me fait trop marrer, moi. Genre, le groupe de jeunes, t'as envie de dire, mais ils sortent d'où? C'est qui leurs parents? Enfin, je veux dire, les jeunes, ils débarquent comme ça au milieu de la race campagne, naturellement, ou ils ont quand même des parents qui les créent
Surtout vu la manière dont la secte agit quand même avec les jeunes, quand on retrouve quand même on retrouve quand même leur corps parmi les autres. Juste ça, c'est vraiment dans une rébellion de la jeunesse, de la nouvelle génération qui ne veut pas être opprimée par une fausse perfection, face à justement ces personnes qui sont garants de la perfection, de la perfection tout court, tout simplement, qu'il n'y a rien qui dépasse, sinon, voilà.
Mais d'ailleurs, je voudrais avoir votre avis un peu. Vous y pensez quoi du fait qu'ils aient le droit d'être dans le pub, mais qu'à la fois on ne veut pas d'eux dans la ville? Il n'y a pas un petit côté un peu étrange avec cette idée-là sur les jeunes?
Parce qu'en fait, ils peuvent les garder, ils peuvent les avoir à l'œil, en fait, quand ils sont dans le pub. Ils savent que quand ils sont là, bon, ils sont gérés et qu'ils ne vont pas du coup dehors dégrader le reste et tout. Mais c'est hyper contradictoire parce que du coup, ils violent le règlement. En plus, on voit bien qu'ils ont des pancartes interdits aux moins de 18 ans, etc. Mais c'est une façon de contrôler, en fait, c'est ça. Ils leur font croire qu'ils ont une liberté en leur disant, bon, vous êtes mineurs, mais vous avez quand même le droit de venir boire des bières au bar. Mais finalement, ils sont sous le contrôle sans le savoir, quoi.
Ouais, ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer. Est-ce que, alors, autre question. Est-ce que vous aimeriez voir un prequel à ce film?
Non.
Sur Angel ou sur Danny, du coup?
Ah
Ouais, du
bah,
coup.
sur Danny, je sais pas s'il y aurait grand. C'est un peu l'inspecteur Gadget.
Sur le village ou sur
Sur le
Ah non,
village.
lequel vous préfériez voir, vous? Si vous deviez faire un prequel de ce film, ça ressemblera à quoi? Bah moi,
Non, mais.
honnêtement, j'ai envie de voir Danny, non? T'as envie de voir Angel, je veux dire. T'as envie de voir Angel à Londres, non?
Ouais, et encore, t'as tellement un gros résumé au début de ses compétences, de sa formation, de ses stages en perfectionnement de VTT, etc.,
Il
que
existe
tu
ce
connais.
film. Il existe ce préquel Hot Fuzz sur Angel à Londres. Ça s'appelle Skyfall. Il faut arrêter de chercher.
Ah, carrément, Skyfall!
C'est le meilleur flic d'Angleterre. Le meilleur flic d'Angleterre, je suis désolé, c'est James Bond. Donc, un flic à Londres, c'est Skyfall. Il n'y a que ça qui colle. C'est le seul équivalent.
Ouais, mais Angel
Et à
face
mon
à
avis, ce
James
serait.
Bond.
Non, mais ça serait. Bah, oui, il fallait bien que j'y vienne un moment. À part dire c'est le plus fort, c'est le meilleur, et de toute façon, il y arrive à chaque fois, le film, il n'aurait absolument rien à dire. Ces personnages-là et cet univers-là, il n'a de sens qu'entre le début et la fin d'Hot Fuzz. À ce qui se passe avant et ce qui se passe après, ça enrichirait jamais le propos ou l'univers du film.
Vous n'êtes pas pour faire des prequels forcés à des films qui ont déjà tout raconté.
Ou,
Vous m'étonnez, monsieur.
sauf si en stylistiquement. On parle de thématique et dans ce cas-là, le préquel d'Hot Fuzz, il existe déjà, il s'appelle Shaun of the Dead.
Ah bon?
Et alors là, oui.
J'y comprends plus rien. C'est les mêmes acteurs dans des rôles différents, monsieur. Vous êtes pas très cohérent. Hein.
Ah,
Non, mais pour le
c'est
coup,
l'inverse de Docteur Who, en fait.
c'est l'inverse
Exactement.
de Docteur Who.
Ah, de Doctor Who, putain, ça rassure. Moi, si on met
Bien
Doctor Who
vu.
dans la boucle, là, vous allez me perdre.
Sachant que James Bond, c'est un Time Lord, alors forcément.
Non, pour le coup, vous n'avez pas envie de savoir pourquoi il a cette obsession d'être parfait, une vieille histoire parentale, un truc comme ça. Non, ça, vous
Il
n'avez
n'y en
pas
a
envie
pas
qu'on
besoin
fasse.
de savoir.
T'as pas envie de
Ouais.
savoir pourquoi il s'appelle Angel? T'as pas
Mais
envie de
je sais
savoir?
pourquoi il s'appelle Angel. C'est parce que le superviseur musical du film s'appelle Nicolas Angel.
Non, mais ça, c'est pas dans l'histoire.
Après,
Mais
une prix. Oh, vas-y.
les origines, elles sont pas nécessaires au personnage et au film. Tout ce qu'on a besoin de savoir, c'est les motivations au temps présent. L'enfance de Nick Angel, elle me dit rien sur Angel. La seule chose qui me dit quelque chose sur Angel, c'est qu'à la base, c'est le meilleur flic d'Angleterre et il est envoyé dans le village le plus tranquille d'Angleterre. J'ai juste besoin de savoir ça. Le reste n'est pas nécessaire.
Dû oublier aussi qu'il aurait fait un merveilleux Muppet. Oui, quand il explique que quand il était jeune, il voulait être Kermit la grenouille.
Ah, mais c'est
Ah
vrai,
oui.
c'est vrai. C'est vrai. Mais donc, avec des gens comme toi, Monsieur Solito, nous n'aurions jamais eu le film Solo. Bah bravo. Voilà, je ne vous dis pas bravo.
De rien, de
Non,
rien.
voilà.
Après, un film qui raconte enfin, c'est pas quelque chose dont j'ai envie, d'accord? Mais un film qui montre comme une enquête de Nicolas Angel, notamment son rapport avec Alors, la fusillade, le coup de la Kalachnikov, et montrer comment son couple se détruit petit à petit, juste pour pouvoir voir un peu plus Kate Blanchett, parce qu'un film n'a jamais trop de Kate Blanchett.
Ah bah là, il y en a quand même partie. Il y a peu de films qu'on a aussi peu, hein, pour le
Ouais,
coup.
voilà. Mais sinon, c'est vrai que, bah, comme on l'a dit, ça ne sert à rien, parce que justement, c'est ce qui est génial ici. Et je pense que c'est peut-être aussi l'une des qualités du film, c'est vraiment qu'il est. On sent que le scénario est resserré au maximum et qu'il n'y a, y a rien qui dépasse. Et que justement, c'est tout ce dont on a besoin est dedans et on n'a pas besoin de demander plus, même si clairement, bah, j'aurais bien voulu voir à quoi ressemblait sa voiture de police quand il était jeune, qu'il a laissé rouiller, voire voilà, ça aurait fait un petit peu drama, mais voilà.
Est-ce
Et
que...
puis tout.
Vas-y. Non, vas-y.
J'allais dire, tout est justifié. Toutes les informations qu'on a dans le film, elles ne sont, c'est que des informations qui sont nécessaires pour rajouter une petite couche par-ci par-là sur les personnages ou sur ce qui va faire avancer l'histoire. Il n'y a pas d'éléments gratuits dans le film, à mon sens.
Non, c'est vrai, mais c'est aussi ce qui lui donne un côté implacable, quoi. C'est clair, c'est clair. Est-ce que ce film ferait une bonne série à épisodes fermés? Est-ce que vous auriez envie de voir ça, des épisodes de série télé avec les deux conquêtes vraiment, non, c'est bon. On arrête d'exploiter cet univers à la con, là, et on va pas plus loin.
Dans l'idée, ça serait toujours sympa de retrouver les personnages. C'est toujours ce côté où affection qui fait que oui, effectivement, on aimerait bien les revoir, mais faudrait trouver vraiment le bon format et le bon ton pour aborder ça en fait, pour que ça soit toujours entre deux, entre la comédie et l'action. Ça serait dur à gérer, je pense.
C'est vrai.
Et Garvice, il a répondu à cette question.
Ouais, il a dit quoi?
Ben dans un des commentaires audio, il y a plein de commentaires audio sur
Ouais, à chaque
les
fois, il y
Tales
en a
Fries. Il
plein.
y en a genre 4 ou 5. Enfin, c'est la folie pure. Dans un de ceux-là, il en parle, je crois que c'est celui avec Tarantino, où il dit que la conclusion du film, il y touche pas trop. Il montre pas grand-chose de l'épilogue parce que, en fait, ce qui se passe après, à la fin, c'est que Peg et Frost, ils deviennent des flics fascistes. Ils deviennent non, mais il le dit explicitement, il dit ça devient des flics fachos et j'ai pas raconté ça, j'ai pas besoin de le raconter, ça m'intéresse pas. Après, ça devient leur problème, mais ça, je veux pas le montrer, je veux surtout pas le montrer. Donc,
Ah, c'est
on pourrait voir la
intéressant.
suite.
C'est passé
Ouais.
d'un système destructeur à un autre.
Bah,
Oui.
comme ouais. On en revient un
C'est
peu à.
comme pour Shaun of the Dead, c'est une autre forme d'aliénation.
Ouais, c'est assez intéressant. C'est vrai que bah, tu me diras, il est fasciste dès le départ, tu me diras le personnage d'Angel.
Ah oui, mais là, encore plus. C'est le
Ouais.
super flic fasciste.
Bah, il a plus de bribes, quoi. Ouais, il a plus
Voilà.
de bribes du tout. C'est marrant parce que c'est vrai que il y a quand même un truc avec ces films. Le troisième, c'est vraiment celui peut-être qui finalement diffère le plus, mais enfin, d'une certaine manière en plus. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où c'est deux conceptions du monde qui s'opposent, mais en étant assez similaires finalement à chaque fois. Parce que là, on est quand même face à un flic fasciste qui finalement se retrouve à lutter contre une organisation ultra-fasciste. Là où dans Shaun of the Dead, on était des aliénés enfin, un aliéné qui refuse une forme d'aliénation pour retrouver une autre. Donc c'est quand même un truc ce côté miroir de pas voir la thématique d'en face et de la repousser en la reproduisant. Je sais pas d'où il sort ça, mais en tout
Finalement,
cas.
le film le plus optimiste de la trilogie, c'est celui où on voit la fin du monde quand même.
Ouais.
C'est hyper paradoxal, quoi.
En tout cas, c'est clairement celui où les deux manières, où le personnage n'est pas dans la. Enfin, il lutte réellement face. Il n'y a pas de. C'est pas miroir, quoi. Il lutte vraiment, c'est l'opposé de ce que le monde devient, quoi. Et pour le coup, c'est la première fois où vraiment il va aller dans l'autre sens, quoi. Mais bon. Ouais, on en parlera la semaine prochaine. Est-ce que vous avez une théorie particulière sur ce film? Parce que bon, hein.
Docteur Who on a fait, The Crown on a fait,
Ouais. Broadchurch, on l'a fait.
Ouais,
Broadchurch on
Broadchurch,
a
on l'a fait
fait.
aussi. Ouais.
Du coup, c'est aussi
Ah.
Docteur Who encore plus.
Ah bah c'est pas, il y en a peut-être pas, hein, parce que ça fait partie de ces films qui sont tellement, je veux dire, limpides. Hein, il y a une forme de limpidité qui s'en dégage de Hot Fuzz. Je pense que c'est difficile d'y voir.
J'ai une théorie, pardon,
Ah,
excuse-moi.
il l'a trouvé,
J'ai
c'est
une.
bon. Vas-y.
Non, mais j'en ai une, mais ça fait vraiment branlette, donc j'ai un petit peu honte de la dire.
Ah mais vas-y, c'est tout ce que j'aime, la branlette.
Je m'excuse d'avance, ok? Pardon. pardon, famille, tout ça, tous les méchants du cercle, The Greater Good, tout ça, c'est tous des acteurs cultes, ou
Ouais.
plus ou moins cultes, ou des seconds couteaux des années 70-80, qui ont tous fait des méchants. Des méchants de films cultes pour Edgar Wright. C'est-à-dire qu'il y a une actrice qui était dans La Malédiction, enfin, Damien Malédiction. Il y a le méchant de Hellraiser 2. Il y a le méchant du premier Indiana Jones, Paul Freeman. Il y a, etc., etc. Et si on prend la fiche IMDb, ça n'arrête pas. Même Timothy Dalton, qu'on connaît parce que James Bond, évidemment, c'est un des méchants de Flash Gordon. Et c'est que des films cultes de l'enfance ou l'adolescence d'Edgar Wright, hein, que des films qui l'ont construit, que des trucs comme ça. Et il y a un truc, c'est que Shaun of the Dead, c'était pas mal de références, pas de références gratuites évidemment, mais pas mal de références, de codes, de tropes du film de zombies. Alors que Hot Fuzz, pour moi, c'est un vrai dialogue entre le cinéma moderne et ses idoles, et vraiment, et la façon de les intégrer à. Bah justement, sa modernité, tu vois. Et il y a un truc qui transparaît là-dedans et qui joue là-dedans, c'est que le combat final avec le personnage de Timothy Dalton, c'est dans une maquette qui représente le village. Et du coup, c'est filmé comme un combat de kaiju,
Ouais.
où Peg et Timothy Dalton sont des monstres géants en fait, qui s'affrontent au milieu de la ville, quoi. Mais vraiment, et pour le contrôle de la ville. Mais vraiment, c'est la symbolique, elle est là, elle t'explose à la gueule, quoi. Et le fait que tu aies une séquence de kaiju comme climax d'un film qui est censé être une comédie policière, un peu de flic, un peu d'enquête, un peu machin, ça te montre que c'est une synergie complète de tous les genres qui ont inspiré et abreuvé Wright, mais encore plus que dans Shaun of the Dead. C'est-à-dire que c'est un truc où c'est pas un genre qui va dominer tout le film, mais c'est carrément tout le cinéma qu'il a aimé qui va ressortir d'une manière ou d'une autre dans le film, y compris cinéma d'horreur, parce qu'il y a des vraies séquences de slasher quand il y a des séquences de meurtre, il y a des vraies séquences gore, alors que comédie policière, tu ne dis pas la première chose que tu vois, ça va être des séquences
Non, c'est
gore, quoi,
clair,
évidemment.
ouais, c'est clair.
Comme Liam en parlait quand il avait découvert le film, quoi. C'est un vrai truc inattendu. Cette mort du mec qui se prend un bout de cathédrale sur la tronche, faut avoir idée quand même, et qui marche un peu après, qui titube, et qu'il a un petit peu la gueule, l'aspect du personnage Pyramid Head dans Silent
Ouais,
Hill.
dans sa lentille,
C'est
ouais, exactement,
un
ouais.
truc. Faut avoir la référence quand même pour la ressortir comme ça. C'est un truc. Bah, voilà. Et du coup, ce mélange-là, mais ce mélange parfait où tu remets jamais en question l'univers, alors que t'as un mélange de 50 000 trucs différents qui t'abreuvent pendant tout le film, et c'est non-stop, non-stop, non-stop. Moi, je trouve ça complètement dingue.
Ah ben ça, ben pour moi, ça fait que le film est. Je pense que c'est pour ça que ça, c'est un des meilleurs films de tous les temps. Hein. Moi, Hot Fuzz, vraiment, c'est. Je vois pas de film qui arrive à aussi bien être enrichi par tout ce que le mec a vu précédemment sans tomber dans ben, la référence, quoi.
Ouais.
Enfin, c'est ça qui est fort, quoi. C'est que c'est très homogène, quoi. Enfin, il y a un côté, on sent que c'est là parce que. Le mec aime tout ça et là, l'a digéré, a réussi à le restituer, quoi. Et on n'en a pas tant que ça, des films qui arrivent à faire ça, quoi. On n'en a pas tant que ça. Ouais, vraiment.
J'ai ma petite théorie pas top.
Non, vas-y, hein.
C'est que si Nicolas Angel a été transféré à Sanford, c'est parce que justement les responsables savaient que Sanford impose une forme de pouvoir qui ne correspond pas à leur forme de fonctionnement et ont voulu essayer de réinstaurer un pouvoir policier dans un petit village afin de pouvoir étendre leur contrôle et pouvoir uniformiser la forme de contrôle qu'impose l'État sur les personnes, que ce soit que ce soit dans la ville de Londres ou également dans un petit village comme Sandford, et que le pouvoir ne soit plus aux habitants, mais qu'il soit tout simplement à l'État policier. Écoute.
Waouh.
Écoute, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Est-ce que ce film vous a donné une envie particulière? Bah, moi, je peux
Écrire
dire tout de suite. Hein.
hashtag
Ah, écrire
ACAB.
#ACAB. Ouais, bah, c'est pas mon envie, mais vas-y, moi, je pense que l'envie, elle est basique, la mienne. Vous allez la voir au moins.
Regardez Bad Boys
Ah,
2
bah
et
voilà.
revoir
Mais
Point Break.
oui. Ah oui, évidemment. Je veux dire,
Voilà, c'est classique, mais voilà.
tu ne peux pas ne
J'adore
pas
que
avoir envie,
Liam
quoi.
dise Point Break alors qu'en France on dit Point Break. Je trouve
Oui,
ça
mais ça...
extraordinaire. Merci Liam
Écoute.
pour ça.
Oui, désolé. Et
Non, mais je trouve ça
aussi,
génial.
visiter une ville miniature, parce que j'avoue que tout ce qui est miniature, j'adore. Mon plan préféré dans Chambre 212, c'est la caméra qui va en arrière sur la maquette de la rue. Tout ce qui est maquette, tout ce qui est miniature, j'adore. Et donc, c'est vraiment le miniature porn pour moi, effectivement, ce climax.
Et bah, Liam, si un jour tu vas à Lyon, et n'hésite pas à aller visiter le musée du cinéma et de la miniature, qui est un excellent musée, qui n'est pas du tout un
Tout
attrape-nigaud,
à fait.
et où tu verras la reine alien, entre autres, la vraie, mais surtout
Pas
tu
la
verras.
vraie, c'est celle d'Alien versus Predator. Pardon, excuse-moi, je casse le délire.
C'est celle d'Alien versus
Ah!
Predator?
Ouais, pardon, excuse-moi, mais la vraie,
Ah!
elle est pas à Lyon.
Bah,
Désolé.
t'es sûr? Parce qu'ils
Moi,
l'ont.
je suis désolé, mais j'y suis allé, j'ai vérifié de mes propres yeux vus, c'est celle d'Alien versus Predator. C'est pas tout à fait le même design.
Moi, j'ai parlé au gars, hein. Donc il m'a mis
Ah
tout
oui,
à
non, mais
l'envers, quoi.
il te dirait que c'est la même, mais c'est pas vrai.
Alors bah, en même temps, je trouve que Paul W. Anderson est l'un des esthètes du 21e siècle. Donc, c'est
Non,
une
mais on va
blague.
pas se fâcher ce soir, Liam,
C'est
on va
pour
pas
rire, c'est
lancer
pour rire,
là.
c'est pour rire, c'est pour rire, c'est une blague, c'est une blague. Je n'aime juste que ces derniers plans. Ce sera pour un futur débat sur Twitter.
Ouais, tu m'étonneras, tu vas t'en prendre ça à ton cheval, enfin, faut que tu sois armé. Hein. Mais en tout cas, bah, visite ce musée, il est très très bien. Bah, évidemment, Laura, est-ce que tu as une envie particulière quand tu regardes autre chose?
De faire comme Danny et de refaire la scène de Keanu Reeves à la fin de Point Break quand il tire en l'air en criant non.
On est d'accord que c'est pas la scène de fin, hein?
Dans Point
Non.
Break ou dans
Dans
Hot
Point
Fuzz?
Break, l'un ni l'autre?
Non.
Non, c'est au
Non, ni l'un ni
milieu.
l'autre.
Bon, de Hot Fuzz, c'est pas loin d'être la scène de fin, mine de rien, mais.
Dans Point Break, c'est au milieu?
Ouais, c'est vraiment au milieu.
Ouais, ça court-poursuite au milieu, hein, on est d'accord.
Ouais.
C'est là
Je
où
l'ai
il
vu il y a
prend.
tellement longtemps.
C'est là où il découvre l'identité de Body, en fait, dans
Ouais.
Point
Ce jeu de regard.
Break. Ah ouais, ça, Point Break, quoi. Grandiose. Grandiose, bah oui, moi, évidemment, c'est de me faire un double feature. Point Break, et je fais une petite
Bad Boys
dédicace
2.
à Guillaume Bucco qui a sa photo de lui avec ses deux films dans le même maillot. Bon, c'est un truc qui me fait toujours marrer. C'est pas on regarde lequel, si on regarde lequel d'abord, évidemment. Évidemment. Bon, bah écoutez, faut filer un rôle à Éric Zemmour. Là, il y a quand même un potentiel. Il y a un petit débat. Je confonds toujours Zemmour et le maire de. Comment il s'appelle là? Ah, Éric Ménard, je trouve qu'il se
Robert
ressemble.
Ménard.
Robert Ménard, et je trouve qu'il se ressemble, et là on peut filer un rôle aux deux. Je trouve que les deux.
Et attends, petit challenge. On n'a pas le droit de lui donner le rôle du mec qui se fait écraser par un morceau de la cathédrale.
Oh
Bah non,
non,
c'est trop facile.
bah non. Bah non, pour le coup,
Ou un
il est.
autre.
Bah,
en même temps,
ah.
je ne sais pas si ça lui conviendrait, étant donné qu'il n'est pas fan de journaliste, à mon avis. Donc, il pourrait dire,
Exact.
à la manière d'un ancien président américain, que c'était fake news. Même si, justement, c'est ce que disent également les habitants. Mon Dieu, est-ce qu'en fait, les habitants de Sanford n'auraient pas voté pour Donald Trump?
Ah, mais pour le coup, il y a un parallèle à faire avec le Trumpiste qui est ultra impressionnant. Hot Fuzz, c'est un film quand tu le revois aujourd'hui, il y a quand même Mike Stanford de Great Again.
Ouais.
Oui.
Enfin, je veux dire, c'est pas rien. Il y a vraiment un espèce d'esprit Trumpiste avant l'aube, avant l'heure, qui est très, très, très impressionnant. Je trouve que c'est. Après, c'est parce que c'est un peu fasciste et donc, bon, bah, de là à dire que Trump est un fasciste, il n'y a qu'un pas. Mais voilà, c'est sûr que c'est démago, fasciste, et c'est sûr que bah, ça rappelle un peu un certain président qui n'est plus.
Il n'est plus.
Quel soulagement. Alors, mais oui, non, vous l'aurez fait. Donc, il joue quoi, Éric Zemmour, dans ce film, messieurs, dames?
Celui qui explose dans la maison.
Ah, le riche,
Ah oui.
qui rentre bourré là.
celui qui a la maison moche, quoi.
Oui, qui a la maison horrible.
Qui explose parce que sa maison est moche. C'est tellement drôle, purée. Ouais, écoute.
Ou Timothy Dalton, qui s'empale
sur une tour de cathédrale
sur une tour
miniature.
de la miniature. C'est peut-être celui qui souffle le plus du film parce qu'il continue à souffrir après la fin du film.
Ouais.
Alors moi, j'hésite parce que je me dis que justement, vu la façon dont évolue Zemmour, à mon avis, il serait pas contre suivre Nicolas Angel. Mais étant donné que j'ai aussi envie qu'il souffre, c'est celui qui explose à la toute fin du film à cause de la mine. Je sais
Ah
plus
oui,
son nom,
oui.
mais
C'est
You know
Stuart
what you
Wilson.
are, a bloody busy bunny.
Ouais,
Un truc comme
bah,
ça.
c'est celui qui regarde dans les vidéos de enfin, les caméras de surveillance, quoi.
C'est ça, je n'ai plus du tout son nom, je me sens
Stuart
vieux en
Wilson,
fait.
c'est le méchant dans Les Tortues Ninja 3. Je vous
Ah
jure que
bah.
c'est
Ah
vrai.
bah bravo!
Je suis désolé.
Ah bah bravo!
Oh,
Et dans Absolum 2022.
qui affronte une autre figure vigilante. Vigilante. Voilà, je pense que voilà. D'un pas entre Nicolas Angel et Tortue Ninja, tout est lié. Il ne manque plus
Exactement.
que la 5G.
Bah ouais, la fameuse. Faut vraiment que je regarde cet documentaire qui t'explique que la 5G est partout là. Ça a l'air d'être très, très instructif. Bon, ce film est-il de droite ou de gauche?
De gauche, puisque antifasciste.
Ah bon? Parce qu'on peut. L'antifasciste, c'est les gens de gauche. Mais je ne comprends rien à la politique, moi. Je suis totalement perdu. Que donnerait ce film réalisé par Michael Bay? Il est un peu inspiré par le monsieur quand même. Parce qu'on n'a pas trop parlé de l'action dans le film, mais c'est plus pour ça que je veux en parler. On est d'accord que. Est-ce que vous pensez que dans le film, Edgar Wright filme l'action comme il aimerait l'avoir, ou il filme l'action parce qu'il a envie de référencer une certaine forme d'action?
Bah, pour le coup, si je peux intervenir, je me rappelle une interview de lui dans Mad Movies où il parlait notamment donc le début de la scène de poursuite quand Nicolas Angel balance sa casquette justement pour avoir un raccord parce que justement il se disait que dans les films à Michael Bay, c'est le genre de truc où Michael Bay s'en fout totalement et où il dit à la script, on s'en fout de la continuité, c'est l'action, personne ne va
Oui.
remarquer. Donc je pense que c'est un mix des deux, c'est la. Dans sa façon d'agir, je pense que c'est vraiment sur le fil entre les deux réponses ici. Donc je réponds après à la réponse A ou B, je donne la réponse C.
La fameuse.
Voilà.
Il y a des plans qui sont directement ressortis de Bad Boys 2, évidemment, et
Ouais.
d'autres trucs. Il y a des influences évidentes ou des effets de montage, notamment quand il y a les mugshots, où il y a un effet de montage hyper saturé qui se faisait beaucoup à l'époque, notamment dans les Michael Bay. Mais n'empêche que les scènes d'action, Liam a raison, elles sont filmées à la façon d'Edgar Wright. C'est-à-dire que chaque plan est hyper logique. À la limite, si ça doit se rapprocher plus d'un autre réalisateur, ce serait plutôt du McTiernan, où c'est beaucoup plus cut, où c'est beaucoup plus. Et du McTiernan du début des années 90, quoi. C'est hyper pensé, hyper découpé, où les mouvements sont nets, il n'y a pas trop de mouvements de caméra à l'épaule, et c'est beaucoup plus stable que ce que Michael Bay proposait à l'époque, ne serait-ce que dans le premier Transformers, vu qu'il est sorti la même année que Hot Fuzz.
Ah oui, c'est sûr, mais moi je trouve qu'il y a quand même une forme de. J'ai du mal avec cette petite fusillade sur la place, que je trouve drôle, hein, mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me dis, bon, la meuf qui apparaît derrière eux dans la fenêtre et qui. Ils n'ont aucune couverture, mais ils ne se font quand même pas tirer dessus.
Alors ça, c'est Tony Scott. C'est le flic de Beverly Hills 2.
D'accord.
C'est le climax du film. Enfin, c'est pas pompé là-dessus, hein. C'est pas ça. Mais dans les influences, c'est vraiment ça. L'idée que... Enfin, c'est un autre truc, hein. Il y a aussi du Léon là-dedans qui est référencé parce que
Oui,
c'est
quand il
un seul, mec
débarque,
seul qui arrive dans
évidemment.
la ville
Et
avec
ouais,
le
la
cheval
cheval.
et tout ça. Il y a la référence de Léon, c'est-à-dire Yojimbo, donc il y a vraiment plein de trucs les uns par-dessus les autres en termes de référence et d'influence évidemment. Mais là pour le coup, c'est une des références vraiment et qui est commune aussi à Tarantino parce que Tarantino a bossé avec lui tout ça. C'est Tony Scott, le Tony Scott des années 80.
D'accord.
Justement, je pense avoir vu une interview d'Edgar Wright où il louait justement Domino
Mais
pour
oui,
certaines
forcément.
scènes. Maintenant,
Il
j'avoue
a
que
repris les effets, oui.
voilà. Maintenant, j'avoue que Domino, je l'ai vu à un âge où je l'ai un peu oublié. Il faut que je le revoie. Je le
J'adore
reconnais
Domino.
moi-même. Donc voilà.
Et
Si
d'ailleurs, en
vous aimez
parlant.
Edgar Wright, revoyez Domino.
Ouais, il faut que je revoie Domino, en effet.
Pareil,
Faut que je revoie
j'ai vu
beaucoup
quand
de
il est
Tony Scott.
sorti, quoi.
En même temps, je pense que. Je ne sais pas si financièrement, ça a été un échec, Domino.
Oui,
Oh là
c'est un bide
il me
énorme.
semble, ouais.
Oui.
Okay. Et grâce à ça, on n'a pas entendu mon jeu de mots pourri, j'en suis très content.
Ah non mais d'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un peu les effets de mise en scène qui vous intriguent, ou en tout cas d'écriture ou de montage qui vous interpellent dans ce film et que bah, quand vous y pensez, vous vous dites, ah oui, il y a celui-là, quoi. Moi, je me lance, il y en a un qui j'aime bien, c'est avant que la maison explose, il y a tout un espèce de dialogue parallèle entre les dialogues que je pense que c'est Angel et Danny qui ont dans leur salon, qui fait écho évidemment à ce qu'on voit juste après. Et c'est débile, mais ça fonctionne. De faire une
Ouais.
séquence en disant et là, en fait, ce film, c'est de là. Et là, la maison explose, tu vois. C'est de la bombe.
Ouais.
C'est débile, mais ça, c'est tellement fait de manière efficace et simple que bah, c'est limpide et ça fonctionne vraiment très, très bien, quoi.
Moi, c'est un plan très bref. C'est dans les présentations des autres policiers. Je n'ai plus son nom. Et sérieusement, j'ai envie de me mettre une gifle parce que j'ai complètement oublié ça. C'est ce plan très court où il y a ce policier qui se retourne face caméra et derrière, il y a un tableau avec des flèches qui le désignent
Oui.
incompétent, etc. Et c'est juste, c'est vraiment le genre de gag pour le DVD où tu mets pause et où tu tapes une barre. Que c'est le genre de truc qui me fait rire. Il y a plein de plans qui sont géniaux, mais voilà, celui-ci, c'est.
C'est vrai que celui-là, et en effet, je me suis fait la même réflexion que toi, je me suis dit que c'est vraiment une blague à DVD, quoi.
Ouais,
Et
c'est
c'est vrai
clair.
que ça marche bien, ouais. Ouais, Laura, toi, t'as un moment qui a un effet comme ça qui te marque?
Bah moi, les effets que j'aime bien, en fait, c'est les scènes qui sont vraiment inspirées d'autres films, mais qui sont tellement bien intégrées. Au métrage, qui sont tellement bien intégrés au moment ou à la personnalité des personnages que ça s'intègre super bien, ça fait référencer sans être pompé. Je pense notamment ben, le plan de Angel et Butterman quand ils arrivent sur la place, qu'ils ont mis les lunettes de soleil et que tu as la caméra qui tourne autour d'eux, comme dans Bad Boys, du coup.
Ouais,
Tu as tout ce genre de petits trucs-là, en fait, où tu sais d'où ça vient, mais ça fait pas artificiel, en fait.
parce que ça a été encore une fois amené, justifié, fantasmé même au sein du
Ouais.
film. Et faut que ça. Et en plus, le fait que, enfin, de toute façon, Bad Boys 2, le fait que quand même Bad Boys 2 soit quasiment un climax émotionnel dans un film, c'est-à-dire qu'il se tourne vers les DVD, c'est là qu'il prend la décision de
Ouais.
revenir. C'est juste grandiose, quoi. Toi, Maxime, une astuce de mise en scène à penser comme ça?
Alors, j'en ai une. Je vais juste revenir sur ce que dit Laura. Il y a un truc que j'aime bien dans le moment qu'elle décrit, c'est que c'est soutenu à fond par la musique de David Arnold, qui n'a pas bossé sur Shaun of the Dead. Quand on est connaisseur du travail de David Arnold, on sait qu'il faisait la musique des James Bond de l'époque, évidemment. Le fait qu'il ait fait un score qui soit vraiment dans la lignée de ses films d'action de l'époque, ça a complètement soutenu le film pour lui donner l'aura d'un vrai film d'action épique des années 2000. Et je trouve que ça participe vachement au fait que quand ça bourrine et quand ça devient épique, et ben y a ce truc en plus de la musique qui porte les personnages l'aventure en général. C'est pas ça que je pensais comme effet de mise en scène que j'aime bien. Il y a deux plans que j'adore dans le film. Il y en a un où c'est Timothy Dalton qui se retourne avec son sourire alors qu'il a un portrait de lui-même qui reprend exactement la
Oui.
même gueule. Et le plan, il est juste parfait parce qu'il a exactement le même sourire sur les deux images. Tout effet de miroir dans un garde-robe, je trouve ça génial.
Ouais,
Et
avec le fond,
ça, c'en est un.
merveilleux.
Il y a un autre plan que je trouve mais complètement dingue parce qu'il faut avoir. Enfin, pas dingue, mais. C'est très con, mais c'est très drôle parce que c'est un vrai effet de mise en scène. C'est quand il est dans le pub la première fois, Simon Pegg, il voit les jeunes qui picolent et le truc qui l'alerte sur le fait qu'ils sont trop jeunes pour boire, c'est l'appareil dentaire d'un gamin. Et quand il voit l'appareil dentaire du gamin, il y a une lumière, un flare qui se reflète sur lui et qui aveugle Simon Pegg, mais qui l'aveugle comme s'il avait un phare dans la gueule, quoi. Et t'as un gros son par-dessus qui fait. Et tu dis, c'est le truc le plus violent qu'il ait jamais vécu de sa vie, c'est de voir l'appareil dentaire de ce gamin. Et c'est tellement énorme que ça ne peut que fonctionner comme gag, je trouve.
Ouais, ça. Mais dans les petits trucs qui me font marrer quand même, il y a le moment aussi où les deux détectives sont en train de se battre au supermarché. Il y a une balle qui explose une boîte de soupe, enfin
Oui.
de sauce bolognaise. Donc bah voilà, ça mimique le sang et
Elle
l'autre
était
qui
tout
dit ça
chouette.
va, non, c'est de la bolognaise. Voilà, bon, c'est débile, mais ça me fait, je trouve que ça fonctionne parce qu'encore une fois, c'était vraiment au premier degré. Enfin, tiens, c'est pas genre une blague où le mec goûterait la bolognaise, je sais pas quoi. Non, c'est en effet, tu peux prendre, enfin, ça ressemble à du sang, mais en fait, non, c'est de la bolognaise, quoi. Donc, la blague fonctionne, enfin, c'est une blague sans en être une, quoi.
J'ai
Bah,
une question, moi.
vas-y, vas-y, vas-y.
Excuse-moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous aviez remarqué jusque-là que le film a deux paires de jumeaux?
Là,
Ça m'a
tu veux dire
alerté.
les deux mecs de l'accueil aussi?
Alors, il y a les deux méchants qui jettent des couteaux à la fin
Ah
dans le
oui,
supermarché,
exactement, ouais.
qui étaient déjà les jumeaux zombies dans Shaun of the Dead. Et en plus, il y a les deux de l'accueil, qui sont joués par le même acteur, Bill Bailey, qui sont du côté des flics. Et
Nobody
là,
tells
pour le coup, voilà. Non, mais c'est moi où il pousse le principe du miroir, mais à l'infini, là. Enfin, il y
Et
a
les
deux paires de
jumeaux,
jumeaux dans le film qui
et je.
s'opposent, quoi.
Et pour le coup, les jumeaux, en plus, ça reviendra aussi dans le film d'après.
Bah
Ouais.
oui, la thématique du
Ouais.
double, forcément.
Ouais. Les deux jumelles, qui sont le chien de tête. Bah écoutez, on va statuer. C'est parti, mon kiki. Qui vole le show, messieurs, dames? Pas évident, là. Parce que c'est quand même, là, pour le coup, Simon Pegg, il propose une incarnation totalement différente du film d'avant. Donc,
Ouais.
il montre un panel de jeux un peu plus large. Mais bon, moi, j'ai envie de dire Timothy Dalton pour le kiff.
Ah ouais.
Ah, tu as volé ma réponse.
Ouais. Je vais pas dire Kate Blanchett.
Ah, mais c'est drôle d'avoir pris Kate
Bah,
Blanchett et
ou
de
Peter Jackson.
Peter Jackson joue le Père Noël. Kate Blanchett, donc la copine qu'on voit une séquence,
Janine.
Janine en flic de la PTS avec un masque et une combinaison intégrale, là. Et dans le fond, il y a encore une fois Joe Cornish qui joue un autre PTS, qui joue Dale, je crois, un truc comme ça, et qui se retourne en disant hey, coucou. Moi je dis, donc Léam, toi tu dis aussi Timothy.
Je pense que je vais me tourner vers une autre réponse pour varier. C'est parce que c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé directement. C'est Jim Broadbent. Parce
Bien
que
dire.
clairement, Jim Broadbent arrive à passer progressivement d'une bonhomie qui est hyper facile. Franchement, c'est
Qui
dur de
joue
ne pas aimer.
le père de Danny, on est d'accord.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Ouais.
C'est tellement dur de ne pas aimer cet acteur. Bah, je pense à ses prestations dans Cloud Atlas ou dans les Paddington,
Ou dans
même si c'est
Superman
mieux maintenant.
3,
Dans
Superman
Harry
4,
Potter
pardon.
6.
Oui, bon, dites, ça va. Hugh
Si.
Jackman, son premier rôle, c'était un koala. Voilà.
Ouais.
Et encore, je sais que ce n'est pas le meilleur exemple niveau carrière. Mais clairement, ouais, je trouve que Jim Broadbent dégage un truc qui arrive à le rendre vraiment menaçant. Là où voilà, il arrive à dégager une bonhomie purement british qui dérive progressivement vers un drame qui est quand même compréhensible d'une certaine manière. Il est tellement marqué par la mort de sa femme, qu'il veut absolument honorer sa mémoire en recréant une illusion, en essayant de vraiment faire la société parfaite pour honorer sa femme, et qui en même temps arrive à dégager un sentiment de menace, même s'il arrive à se faire éliminer par un signe, ce qui aurait dû plaire à Shyamalan. Mauvaise blague, je suis désolé.
Oh,
Non,
énorme, énorme, énorme.
mais voilà, mais
Oh.
clairement, bah, je ne pensais pas dire Jim Broadbent, en y pensant maintenant, je me suis dit, bon, bah. Voilà, Jim Broadbent, excellent acteur, dont on ne mentionne pas assez le talent.
Il a un rugissement de lion dans le film.
Oui, mais
Je te
justement, c'est
le
parce que je repensais à ce plan. Parce que oui, ce rugissement, c'est le genre d'idée qui aurait pu paraître vraiment trop, et qui arrive pourtant à être en même temps classe, en même temps à être dans, je ne vais pas dire une forme de parodie, mais quand même une forme d'humour. À mon avis, ça n'aurait peut-être pas marché dans le premier degré absolu, et qui en même temps arrive vraiment à instaurer C'est pour ça que dans l'épisode précédent, je mentionnais un peu le pub en tant que révélateur de personnages. Je trouve ça passionnant que ce soit vraiment dans quelque chose qui est aussi institué, aussi inscrit dans l'environnement british que le pub, que c'est à ce moment-là que se dénoue la vérité pour le plus grand public, que les autres policiers se rendent compte de ce qui se passe. Et arrive finalement à se tourner vers l'autre côté.
Ouais. C'est vrai qu'il y a un lien, il y a un lien. Et bah, le pub,
Ouais.
on va en parler parce que le film d'après, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Toi, Max, pour ceux qui volent le show.
J'ai une réponse de branleur, pardon.
Ah, vas-y.
Pour moi, ce qui vole le show, c'est Nick Angel, le superviseur musical. Parce que
Vas-y,
j'expliquais pourquoi. En fait, c'est le son en
vas-y.
fait qui vole le show dans le film. C'est-à-dire la musique de David Arnold que je trouve vraiment géniale. Vous pouvez l'écouter en dehors du film, et vraiment l'écoute, elle est super agréable. Et l'apport du son dans le film. Edgar Wright, il passe un de ses commentaires audio en parler, qui est tout le long du film des ajouts de bruitage, des ajouts de son qui sont là juste pour identifier les personnages. Pour juste rappeler au spectateur un détail précis, pour lui évoquer un truc, ou même des rappels purement thématiques. Par exemple, quand il rentre dans le pub, il y a le jukebox qui fait exactement le même bruitage que dans Shaun of the Dead.
Ouais.
Mais vraiment
Oui.
des trucs qui passent en douce, mais tout le long du film, pour n'importe quel détail. Le petit bling-bling quand il rentre dans la petite supérette, à chaque fois, vraiment n'importe quoi, c'est souligné par le son de façon hyper pensé en termes de encore une fois, rythmique, harmonique, mélodique, vraiment comme une musique.
Bah écoute, c'est vrai que c'est... C'est bien qu'il ait fait le Baby Driver après quand même, parce que
Il avait besoin de le
ça,
sortir. Ouais.
il avait besoin de le sortir. Ouais. C'est clair que tu sens qu'il avait besoin de faire ce film avec ce délire-là, quoi. Est-ce qu'il y a un perdant dans le film? Pas évident, hein, franchement.
Ah, moi, je dis, il y a une star qu'on ne voit pas assez.
Ah,
C'est
vas-y.
le signe.
Ah,
Ah.
oui. Mais cette séquence où la maison a explosé, regarde les caméras, ils se foutent de la gueule du gars parce qu'il y a le signe qui apparaît et personne prend le truc au sérieux, je trouve ça tellement drôle. Il est là, votre criminel! Voilà. Mais non, vous avez quelqu'un que vous considérez, on peut dire Olivia Colman, c'est dommage qu'elle n'ait pas un peu plus à mettre sous le coude alors qu'elle est très talentueuse, comme on l'a dit, quoi. Mais bon,
Une
à la
Freeman,
fois, son. Oh,
encore une
bah oui,
fois.
encore une fois, ouais, c'est vrai que Freeman, c'est vrai que le trio du début, c'est vrai que tu as envie de les voir plus. Ouais. T'as envie de les voir plus.
Y a même Steve Coogan au début du film et à la fin.
Ouais, c'est ça, Steve Coogan, exactement. Bah, le trio des trois, là, ouais, ils sont
Ouais.
redoutables. Hein. Ils sont redoutables. Je voudrais voir votre supérieur. C'est quoi pour vous votre réplique préférée?
J'en ai une parce que, enfin, j'en avais deux. Bon, au
Allez, on
départ,
est.
j'en J'explique, j'en avais trois. Mais il y en a une qui a été dite avec la bolognaise. Il y en a une qui est beaucoup trop longue à faire, c'est la première réplique. Vraiment, toute la première réplique, je ne vais pas la redire parce que clairement, mon anglais est aussi excellent que mon arménien. Et voilà, j'ai franchement, je voilà. Mais donc, j'ai envie de dire une blague qui me fait toujours rire. C'est quand ils sont dans le pub, qu'ils boivent la bière. Et que Nicolas Angel fait You've got a moustache. Et que l'autre fait Yeah, I know. C'est tellement bête, c'est tellement bien trouvé, c'est tellement simple que, voilà, moi je suis à chaque fois mort de rire devant cette scène. Rien que cette scène arrive à me réconforter face au calvaire que fut certaines comédies que je ne mentionnerai pas, parce que sinon Kev Adams serait en colère.
Je ne suis pas sûr qu'il nous écoute, mais bon.
Oui, mais bon.
Tu as une réplique, Laura?
Alors moi j'aime beaucoup, alors pareil je vais pas la dire parce que c'est beaucoup trop long, c'est même pas une réplique, c'est un morceau de dialogue, mais c'est vraiment tout le moment où Danny Butterman l'interroge, Nick Angel, pour lui demander est-ce que t'as déjà
Déjà
tiré
fait.
avec deux flingues en même temps, est-ce que t'as déjà fait une course-poursuite, est-ce que t'as déjà... Et j'adore parce que ce personnage, pour moi, Butterman, il incarne vraiment en fait le spectateur du film qui s'est nourri de films d'action quand il était gamin et qui du coup a en tête tous les gros clichés qu'il a vus dans des films d'action, et du coup il tombe enfin sur un super-héros entre guillemets qui correspond à tout ce qu'il a déjà vu dans ses films et à tout ce qu'il aimerait incarner, et du coup il a toujours un million de questions à lui poser, comme quoi il lui demande est-ce que c'est vrai qu'il y a un point précis dans le crâne qui explose si tu tires dedans. Et j'adore l'innocence entre guillemets de ce personnage-là, et qui se ressent du coup souvent dans ses dialogues.
D'ailleurs, ça me donne une théorie un peu pourrie, mais si le personnage de Danny a son propre endroit pour les DVD, mais vraiment bien mis en avant alors que toutes ses caisses ne sont pas faites,
Ouais.
qu'il les privilégie dans un endroit qui est peut-être caché, c'est peut-être justement parce qu'il n'a pas pu profiter autant quand il vivait avec son père. Parce que justement, son père ne voulait pas qu'il devienne un policier de choc, un policier londonien, et qu'il voulait le garder près de lui, et peut-être lui a évité de voir ce genre de film quand il était plus jeune. Je viens juste improviser ça, ça n'a peut-être aucun sens
Écoute, mais
par rapport au
si,
restant du film, mais voilà.
il y a un
Mais c'est
lien.
très
Hein.
pertinent.
Ouais, je pense qu'il y a un lien, en effet. Ouais. Ouais, toi, Max, ta réplique préférée?
Alors, c'est une double réplique. C'est vers le début du film, il y a les nanas de la supérette qui commentent Simon Pegg, qui font Look at Angel, look at his ass. Re regarde son
Oui.
cul.
Ah
Et à la
oui,
fin du film, c'est Look at his ass, regarde son
oui.
cheval. T'as vu son cheval? Voilà, juste ce
vrai
petit jeu de
que...
mots, mais vraiment purement anglais, vraiment sur la langue anglaise, je trouve parfait.
Ah ça, je me demande comment ils arrivent à traduire en français ce genre de truc. Ça doit être...
Mal, très mal. Les VF des films d'Edgar Wright sont
Ah
toujours
bah ouais, mais
catastrophiques.
d'ailleurs, je trouve globalement, je l'ai pas dit, mais les films d'Edgar Wright sont compliqués pour quelqu'un de non anglophone. Hein. Enfin,
Ouais,
vraiment, il y a
très.
je trouve qu'il y a quand même une limitation de la langue qui persiste. Moi, je maîtrise très bien l'anglais, mais même pour moi, ça va quand même très vite. Je dois avouer qu'il y a... Enfin, voilà, en plus, c'est un anglais, donc c'est pas non plus l'anglais le plus... avec lequel je suis plus habitué, mais même les sous-titres pour moi, ça c'est aux fraises totales. Enfin, vraiment, c'est faut réussir à pour avoir l'entièreté d'expérience, faut avoir un niveau très soutenu, hein, et sinon on capte pas du tout tout quoi, capte pas tout du tout. Bah écoutez, il nous reste plus qu'à nous donner notre scène favorite, et je pense qu'on sera bon. Okay, est-ce que vous avez le meilleur moment du film pour vous? C'est quoi?
Personne n'ose parler.
Ouais, moi, tout le monde réfléchit en fait
Ouais, c'est
à
ça.
quel
Moi, j'en ai
moment.
un, j'en ai un, j'en ai
Ah,
un.
vas-y.
C'est vers la fin, quand Peg et Frost nettoient la ville au flingue, en gros, quand ils arrivent dans le pub et qu'ils sautent sur le côté en tirant avec les deux
Ah,
flingues.
oui, bah là,
Et il
tu
y a
refais.
cinq ou six plans en même temps d'un coup pour faire durer le saut le plus long possible.
Ouais.
Et ce moment-là précis de la musique, encore une fois, David Arnold, et cette mise en scène-là vraiment ultra épique où les flics ils font vraiment le truc de super flic, enfin, dont Nick Frost rêvait et que Simon Pegg voulait faire depuis le début du film pour défoncer les méchants. Voilà, ce moment-là, pour moi, il est juste parfait.
Et en plus, ce qui est génial, c'est que dans n'importe quelle parodie à la con, on aurait fait que Nick Frost, il fasse n'importe quoi, ou il se
Oui.
ridiculise. Et non, là,
Ouais.
il est à fond, et il y va, et il est cool, et il fait son saut de manière trop classe, et tu vois, c'est pas du tout...
C'est l'anti-Police Academy, en fait.
Ouais, c'est ça, c'est que d'un coup, il l'assume, et ça y va, quoi.
Ouais.
Moi, je pense que ma scène préférée, c'est un peu long, mais c'est ce qui est situé entre le générique de début et le générique de fin.
Ah ouais, c'est un peu long, ouais. C'est même
Non.
plus qu'une séquence, hein, théoriquement, mais bon.
Allez, je vais essayer de me limiter. On en a déjà parlé, mais encore une fois, miniature porn. Tout simplement le climax,
J'avoue que
le combat dans la ville miniature.
ce saut de voiture qui arrive, enfin, t'as un côté où d'un coup ils arrivent à créer ce côté démesuré, alors qu'en fait, c'est juste par l'astuce d'avoir mis une ville miniature qui fait que t'as une espèce de vue où la voiture elle survole la ville, elle se va s'écraser plus loin. Enfin, ouais, c'est sûr que ça.
Qu'en plus, la façon dont c'est amené, encore une fois, comme avec Point Break, c'est
Pardon.
vraiment, on aperçoit vite fait un panneau avec la ville miniature, on y fait référence, je pense, une fois. C'est l'un des deux policiers qui le dit que s'il veut diriger une ville, il n'a qu'à être le chef de la ville miniature. Et que c'est amené tellement subtilement qu'au final, quand on arrive à cette ville miniature, on ne se dit pas, c'est
Oh,
peut-être
il y a
bête
une
à
ville
dire, mais on.
miniature, ouais,
Mais
on...
voilà, c'est pas, ça paraît pas tiré par les cheveux en mode ah bah ils ont placé une ville miniature de nulle part. Et c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est juste ce genre de détails, de scénario qui montre tout simplement la qualité
Bah, c'est
du
de
scénario pour y
l'orfèvrerie
amener
en
ces
fait.
références.
Enfin, il y a vraiment ce côté rouage parfaitement huilé qui s'enchevêtre, enfin, qui a tout a été pensé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard en fait. Et le hasard au cinéma, on a toujours du. Enfin, on le prend souvent pour des facilités. Et là, il n'y en a pas de facilité quoi. Tout
Et
a
le fait
été.
que le gamin qui sauve dans cette miniature, c'est Aaron A. Aronson,
Oui,
on
mais.
croyait que c'était une vanne au début du film, et en fait, non, pas du tout, c'est un vrai gamin. C'est génial, quoi, c'est un payoff ultime, quoi.
Aaronson. C'est vrai. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai que même. De toute façon, il y a tellement de payoffs dans ce film. Ça va. De toute façon, cette trilogie, c'est payoff la trilogie, quoi.
Puis même des petits détails à la con comme le Roméo et Juliette de Baz Luhrmann qui est complètement
Ouais,
mais
qu'est-ce
zigouillé en
complètement.
30
Ouais.
secondes.
C'est vrai, je suis vrai. Ouais, c'est vrai. Elle est horrible cette séquence.
Alors qu'il y avait quand même qu'il y avait des acteurs professionnels parmi eux, quoi.
Non,
Mais oui.
mais et pareil, toutes les répliques de Timothy Dalton où il fait que des espèces de prévisions de ce qu'il va faire, enfin, de manière pas du tout subtile. Tu vois, genre, ouais, bah, c'est trop drôle, je trouve ça énorme. Écoutez, est-ce que ce film est dans un top 3 particulier pour vous?
Alors ça va paraître étrange à dire étant donné les circonstances du film. Ce dont on a parlé, etc. Mais ça fait partie de mes films de confort, mes films de comédie, parce que c'est un film qui me fait vraiment mourir de rire, même si je n'ignore pas effectivement ce dont on parlait, la partie politique derrière. Mais je trouve que c'est le genre de film que, tout simplement, quand je ne vais pas bien, je regarde ce film. Voilà, clairement, c'est le genre de film qui me fera toujours rire, comme La Cité de la Peur ou Gremlins 2, qui est pour moi, Gremlins 2, l'une des meilleures suites de l'histoire du cinéma. Mais ça, ce sera pour une
Ah,
autre
c'est
fois.
intéressant ça.
C'est
Ouais, c'est
exact.
intéressant comme déclaration. Écoute, c'est pas mal. C'est pas mal. Maxime, toi, t'as un top 3 particulier?
Dans mon top 3 des films qui référencent Bad Boys 2 et Point Break en même temps.
Ah,
Non, non, c'est pas dans un... Comment dire? Ce serait pas dans mes comédies forcément préférées, même si je le trouve vraiment parfait. C'est pas forcément même dans mon top 3 d'Edgar Wright préférés. Mais on l'avait dit au début de l'émission, il est unique. Il invente son propre genre, en fait. Il est le maître étalon et le sommet absolu du genre qu'il invente, quand même. C'est complètement dingue.
Oui.
Il est le top 3 de ça, mais il est le top 1 du propre truc qui crée, quoi.
Qui crée.
Bah ouais. Bah, il est dans le top 3 de la trilogie Cornetto, largement, tu vois.
Ah, bah ça, on ne
Largement.
pourra pas te l'enlever.
Non, non, mais il est extraordinaire en soi. Voilà.
Laura, toi, tu as un top 3 particulier?
J'aurais du mal à le classer aussi. Alors, je ne sais pas si je le mettrais dans un top 3 de mes comédies favorites aussi, parce que même s'il me fait beaucoup rire et j'ai l'impression que plus je le vois et plus je me marre. Je le mettrais dans un classement des buddy movies, on va dire.
Ah, top 3 buddy movie, oui, ça, je suis probablement d'accord avec toi. Et moi, quasiment un top 3 des meilleurs films britanniques. Parce que,
Waouh.
ouais, mais j'aime beaucoup ce film. Pour moi, c'est mon préféré d'Edgar Wright, par exemple. Donc, déjà, c'est celui dans lequel je prends le plus de plaisir. Et je trouve vraiment excellent, du début jusqu'à la fin. Tellement de choses à mentionner. Enfin, je veux dire, voilà, même la séquence de voyage où il passe de Londres à ce village-là, elle est.
Ce montage est parfait.
Ce montage est extraordinaire, quoi. Enfin, voilà, c'est tellement. Ça raconte tout avec des idées partout. Enfin, voilà, c'est rythmé, c'est dynamique, c'est innovant. Et c'est un bonheur de tous les instants. Bah, écoutez, avant de se quitter pour terminer les prochains épisodes, on va rapidement faire un petit tour de table pour dire où est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet. Bah, vas-y, commençons par Liam.
Ouais. Alors, donc je suis souvent sur Twitter pour dire à peu près tout et n'importe quoi sous mon nom Liam de Bruel. Sur Facebook, j'ai une page où je remets toutes mes critiques du nom de Monsieur Popcorn, parce que j'écris pour Le Coin des Critiques Ciné, pour Ninanc, pour Comics Prime et Désolé j'ai ciné. Je participe aussi à la radio Serap.
Mais t'excuses pas d'avoir ciné, hein, tout va bien.
Voilà, j'essaye de faire du Twitch un peu de temps en temps parce que je suis très mauvais en jeux vidéo et que bah voilà, j'essaye. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'on va retenir pour me définir. J'essaye.
J'essaye, c'est bien, écoute. Et toi, donc Maxime, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet?
Godard Fouard, c'est mon pseudonyme débile. Je suis sur le blog Gone Hollywood où j'écris des critiques et je réalise une émission sur YouTube qui s'appelle le Top 10 qui donne les 10 meilleures raisons de voir ou revoir un film et je présente des séances pour le blog Gone Hollywood quand les salles de cinéma seront ouvertes.
Royal. Et donc, Laura, on termine sur toi.
Et moi, c'est Laura de la chaîne Laura fait genre sur YouTube où je parle de cinéma d'horreur essentiellement. Et on me retrouve un petit peu partout sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sous le pseudo toujours de Laura fait genre.
Extraordinaire. Et bah écoutez, merci encore une fois énormément d'avoir participé à cette émission sur Hot Fuzz. Et ben bah, il nous reste plus que la dernière affaire sur le dernier Bob avant la fin du monde. Donc d'ici là, bonne toile.
Bye bye.